Le journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa Radio.
Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre émission Le journal des auditeurs. Aujourd'hui, dernière édition de la semaine, c'est la libre antenne comme chaque vendredi. C'est vous qui faites le sommaire, c'est vous qui choisissez les sujets sur lesquels vous souhaitez réagir. Alors, vous êtes nombreux à vouloir parler du cas Ousmane Sonko. Nous reviendrons aussi sur les propos du président guinéen Alpha Condé à l'inauguration d'un forum économique. Et nous parlerons également de la crise post-électorale au Niger, où il y a eu deux morts, selon le ministre de l'Intérieur. Pour participer, nous parler du sujet de votre choix, appelez-nous au 33 1 55 07 58 00 ou envoyez-nous des messages sur WhatsApp au 33 7 66 19 77 69. Suite à un problème technique, je n'ai pas pu récupérer vos messages sur le répondeur d'Africa Radio et je m'en excuse, notamment pour ceux qui s'étaient inscrits. Donc, tout de suite, la libre antenne.
Africa. Prenez la parole dans le JDA sur Africa Radio.
Et nous ouvrons cette libre antenne avec la situation au Niger. La commission électorale nationale indépendante a déclaré vainqueur Mohamed Bazoum avec un peu plus de 55% des suffrages. Mais ces résultats ont donné lieu à des contestations. Plusieurs manifestants, sont sortis dans les rues, ont brûlé des pneus, ce qui a donné lieu à des échauffourées avec la police et les forces de l'ordre. Selon le ministre de l'Intérieur, il y a eu deux morts. Le gouvernement nigérien accuse à demi-mot l'opposant Ahmad Amadou. Alors qu'en pensez-vous ? On en parle tout de suite avec Abdoul. Abdoul, bonjour.
Oui, bonjour Stéphanie.
Bonjour Abdoul, bienvenue dans le journal des auditeurs.
Ok.
On vous écoute.
Bon, tout d'abord, je vais présenter d'abord mes condoléances à tout le Niger, à toute la population du Niger. Suite au décès des membres de la Commission nationale indépendante qui ont sauté sur une mine. Effectivement, aujourd'hui, la crise post-électorale a été causée surtout par M. Issifou Mahamadou qui a chanté sur tous les toits qu'il allait organiser des élections libres et transparentes. Malheureusement, le Niger lui a tout donné pour sortir par la grande porte. Mais malheureusement, je le dis malheureusement, ces élections ont été vraiment très mal organisées. Et la société civile, l'opposition, tout le monde avait décrié cette mauvaise organisation de ces élections. Et vraiment, et on voit
les résultats. Vous pensez à un exemple précis en termes d'organisation, d'échec de l'organisation ?
Par exemple, le code électoral a dit que c'est avec un fichier biométrique et des cartes d'électeurs biométriques qu'il faille organiser ces élections. Mais malheureusement, le fichier n'a pas été biométrique, la carte n'a pas été biométrique. Et sincèrement, vous voyez, c'est depuis là-bas que tout a été faussé. Mais les gens ont accepté, malgré tout ça, d'aller aux élections. Et vraiment, quand on vient encore sur le processus électoral, il y a eu beaucoup de fraudes. Donc, vous voyez, il y a eu plusieurs raisons qui ont fait que vraiment ces élections vraiment n'ont pas très bien réussi, surtout au dépouillement. Au dépouillement où vraiment beaucoup de partis politiques ont organisé des fraudes massives jusqu'à même où la CENI a sorti un communiqué le jour du deuxième tour pour dénoncer certaines fraudes dans certaines parties du Niger. Vous voyez, tout ça, ça a porté préjudice vraiment au bon déroulement de ces élections.
Merci beaucoup Abdoul d'avoir ouvert ce sujet Niger, selon Abdoul, des élections irrégulières. Inoussa, bonjour. Allô Inoussa.
Oui, bonjour Stéphanie.
Bonjour Inoussa, oui, tout à fait. Bienvenue dans le journal des auditeurs. Vous avez entendu Abdoul qui contestait l'organisation des élections et la régularité de l'élection. Vous êtes d'accord avec lui ?
Oui, je suis d'accord avec lui. C'est-à-dire que dans votre précédente émission, je vous avais dit que la crainte des électeurs au Niger, c'est de ne pas savoir où leur voix atterrisse. Maintenant, au Niger, on est en train de parler d'un contentieux post-électoral. Il y a deux présidents qui sont sortis nous dire qu'ils ont gagné. Donc, je vais te parler en français facile pour que nos parents au village y comprennent. Il faut procéder à un recomptage des voix. Est-ce que c'est un problème? Une élection, elle se gagne sur la base des procès-verbaux signés et contresignés par les représentants des partis en présence. Donc, je ne vois même pas pourquoi les gens disent que Mahamadou, quelqu'un veut l'arrêter. Je ne sais pas. C'est pas lui. C'est entre Mahamadou Ousmane et Bazoum. Maintenant que chacun sorte, c'est PV et qu'on recompte.
J'imagine que c'est au Conseil constitutionnel hein, de prendre une telle décision. Ce que peut faire déjà, c'est...
Il faut qu'on revienne aux fondamentaux. La vraie démocratie, c'est au Niger, par exemple, pour nous, c'est comme la lutte traditionnelle. Tu vas dans l'arène avec ton adversaire. S'il t'a terrassé, il t'a terrassé. Et si c'est toi qui as terrassé, c'est toi qui gagne. Et ce que moi, je déplore aujourd'hui, c'est le fait que quand il y a des élections en Afrique, il y a toujours ces soi-disant observateurs internationaux, mais ils vont aller faire quoi là-bas? Mais
c'est pas beaucoup d'observateurs africains, plutôt.
Aujourd'hui, en France, quand il y a eu l'élection du président Macron, je n'ai pas vu un observateur international venant du Mali ou de la Guinée.
Mais vous remarquerez qu'en France, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections.
Il y a une infantilisation de l'homme africain. Aujourd'hui, les gens doivent prendre leur destin à main. C'est celui qui a gagné qu'on prouve qu'il a gagné et puis on avance. C'est ça le problème. Aujourd'hui, et tout le monde dit que, bon, voilà, les Africains, nous sommes des enfants, nous ne comprenons rien. Sinon, organiser une élection, c'est comme organiser un match de football. Celui qui a marqué le but, là, les gens le connaissent. Donc, pourquoi tergiverser et chercher des boucs émissaires? Il n'y a pas de bouc émissaire à rechercher. Il faut faire un comptage.
Un recomptage des voix, on l'a bien compris. Cela dit, j'imagine, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, qu'on fait un recomptage une fois que les recours ont été déposés auprès du Conseil constitutionnel. Merci, Inoussa. On va clore ce sujet de Niger avec Haruna. Haruna, bonjour.
Bonjour Stéphanie, bonjour les auditeurs.
Bonjour Haruna, bienvenue dans le journal des auditeurs. Alors Haruna, vous avez beaucoup entendu cette semaine, j'imagine que vous avez entendu Inoussa appeler un recomptage des voix. Est-ce qu'il faut peut-être attendre les recours auprès du Conseil constitutionnel?
Stéphanie, je voudrais d'abord présenter vraiment mes condoléances aux familles des victimes là, des deux morts là, qui s'est passé vraiment au Niger. C'est vraiment déplorable. Vous savez Stéphanie, Tous ceux qui veulent la vérité, le président du Niger aujourd'hui, c'est Mahamadou Ousmane. On n'a pas à recompter.
Alors cela dit, selon les chiffres donnés par Mahamadou Ousmane, il gagnerait avec un peu plus de 50% des suffrages, ce qui n'est pas énorme comme différence, ce qui signifierait qu'au moins 49% des personnes ont voté pour Mohamed Bazoum.
Exactement, mais là, vous voyez...
Donc c'est pas très franc comme victoire.
Ce qu'il donne comme résultat, ce sont des résultats sincères. Oui. Donc, eux, ils sont partis. Eux, ils ont déjà dit qu'ils vont gagner les élections, Stéphanie. C'est quelque chose qu'ils ont déjà déclaré, mais tout ce qui est en train de se passer là, c'est prévisible, Stéphanie.
D'accord.
Le président Mahamadou Ousmane, il a même dit, et il a, tout est clair, Stéphanie, Mahamadou Ousmane, il avait dit que si vous avez suivi ce qui se passe au Niger, vraiment, le président Mahamadou Ousmane l'a dit, il y avait des endroits où le vote est déjà fini la veille. Il y avait des gens qui ont été menacés, armes à feu à la tête. C'est pas moi qui les invente, c'est la réalité du Niger. Ouais. Maintenant, c'est juste pour vous dire que il y a le PNDS des Occidentaux et le PNDS, le vrai PNDS du Niger.
Vous vous dites que le PNDS a un double discours, c'est ce que vous êtes en train de dire, Runa?
C'est ça. Malheureusement, la diaspora, il est perdu dans ça. La diaspora africaine. Nous, on sait de quel PNDS on parle. C'est le PNDS qui a semé la dictature au Niger, la corruption au Niger. Hein? C'est eux qui se présentent, les militants.
Cela dit, ils ne sont pas au pouvoir depuis longtemps. Hein. Le PNDS est au pouvoir depuis une dizaine d'années.
Oui, effectivement. Et cette, cette dizaine
la corruption au Niger existait déjà avant.
Oui, ça existait devant, mais ça a pris ampleur ici. Il faut voir le détournement du ministère de la Défense. L'argent destiné à la sécurité des Nigériens, Stéphanie. Et que le président se permet de dire qu'il faut que ceux qui ont pris, ce sont ces militants, ceux qui ont pris, venez payer et puis c'est tout. Mais où est la logique dans cette histoire-là? On n'a pas de justice. Celui qui détourne doit se mettre en face de la justice.
Merci Haruna. Bonne journée du côté du Niger à suivre. Après ces tensions, le calme est un peu revenu aujourd'hui dans la capitale Niamey. Haruna, peut-être je voulais avoir votre regard. Que pensez-vous des accusations contre Ama Amadou? Le ministre de l'Intérieur a annoncé le rechercher.
Vous savez, Stéphanie, Ama Amadou est le politicien le plus populaire du Niger. C'est Ama Amadou qui est sorti pour dire de supporter Mamadou Ousmane. C'est un problème pour eux. Aujourd'hui, ils sont en train d'arrêter les leaders de l'opposition sans mandat d'arrêt, Stéphanie.
Bon.
Vous imaginez ça?
Merci. Merci beaucoup, Haruna.
Ça,
merci.
C'est juste pour dire à la diaspora la réalité du Niger. Je vous remercie.
Merci à vous, Haruna, depuis l'Allemagne, 33 1 55 07 58 00. On accueille Lamarane. Lamarane, bonjour.
Bonjour, Stéphanie. Merci. Et bonjour à tous les auditeurs.
Merci de votre patience, Lamarane. Vous êtes à New York, aux États-Unis, où il doit être au moins 7h38. Nous sommes le petit matin. Vous vouliez revenir sur des propos qui ont fait un peu polémique, des propos du président Alpha Condé à l'ouverture d'un forum économique sur les mines. Il a notamment, il s'en est pris au Guinée, c'est bien ça?
Oui, comme d'habitude, vous allez me permettre d'abord de vous rappeler qu'en Afrique, on dit souvent que l'âge ne confère pas à la sagesse. Ce vieillard de notre âge, dont l'âge est latent, a pris l'habitude et goût à chacune de ses sorties d'injurier les Guinéens. Sinon, un forum pour les investissements en Guinée ne nécessite pas d'injurier les populations guinéennes afin de rassurer les investisseurs. Les investisseurs ont besoin d'un climat juridique serein, d'infrastructures routières, de l'électricité et de l'eau, plus la sécurité. Là, les investisseurs sont rassurés. Mais en Guinée, c'est le système d'impunité. Alpha Condé est à l'image de lui-même et à l'image des Guinéens. C'est seulement en Guinée qu'un tel individu peut être président de la République. Après 10 ans de gestion chaotique, il force un troisième mandat. Et ce troisième mandat est plus terrible que le coronavirus qui sévit dans le monde. Est-ce que ce troisième mandat a fait plus de victimes que le corona en Guinée? Et maintenant, il y a une autre épidémie qui revient, qu'on appelle Ebola.
Plus la polio.
De toutes ces crises-là, oui. De toutes ces crises, Alpha Condé se permet encore d'injurier les Guinéens avec ses sorties inopinées dans les...
Alors, pour éclairer les auditeurs, je ne sais pas si c'est ces propos auxquels vous pensez. Il a notamment dit les Guinéens n'ont pas honte, ils ont peur. C'est comme les tortues, il faut leur mettre le feu au derrière.
Oui, oui. Je pense que ces injures aussi se retournent contre lui, puisqu'il est, guinéen. Il est guinéen par le droit de sol. Il est tortu, il n'a pas de honte, ce que vous voyez.
Donc,
je pense que les Guinéens doivent se débarrasser de l'ethnocentrisme. Ils doivent se donner la main ensemble pour se débarrasser de ce vieillard. Alpha Condé n'a rien apporté à la Guinée. Aujourd'hui, la communauté à laquelle il se réclame, Farana, Kankan, ce sont des manifestations spontanées où on réclame le courant. On réclame l'eau. Il y a une femme, j'ai vu sur un article là, qui dit qu'elle a parcouru 5 km pour trouver quelques litres d'eau. C'est vraiment honteux. Donc les Guinéens, je pense que ils doivent se débarrasser de l'ethnocentrisme, regarder dans la même direction. Et j'invite, malheureusement, il n'y a pas d'armée dans ce pays, sinon c'est le moment opportun de mettre ce vieillard hors d'état de nuire.
Merci beaucoup, Lamarane. Je pense qu'on a bien, compris hein, votre propos, Lamarane. Merci beaucoup. Et vous l'avez dit au début, hein, c'est pas la première fois que Alpha Condé hein, s'en prend un peu vertement comme ça à ceux qu'il gouverne, aux Guinéens. On se souvient aussi des propos envers les étudiants hein, qu'il avait traité de cabri, hein, comme quoi il aime bien les métaphores animalières. Je voulais réagir, 33 1 55 07 58 00 01 55 07 58 00. Depuis la France, on se dirige maintenant au Sénégal, où les 12h42, Sibi, bonjour.
Oui, bonjour Stéphanie, bonjour à tous les auditeurs.
Bonjour Sibi, vous êtes très inquiet pour votre pays, le Sénégal.
Ah ouais, Stéphanie, en tant que Sénégalais, je suis trop inquiet pour notre démocratie. En 2011, tout le monde, tous les gens qui sont les députés qui sont à l'Assemblée nationale aujourd'hui, ils sont tous marchés sur les cadavres à cause des carrés, ils sont entrés à l'Assemblée nationale. Ils sont en train de faire la même chose qu'Ablawad a fait. Là, la démocratie est en train de disparaître au Sénégal. Maintenant, on ne sait pas. Au Sénégal, on dirait maintenant c'est la dictature. De pouvoir en place. Dès qu'il y a un pouvoir en place, tu fais qu'est-ce que tu veux. Voilà. Les gens qui sont avec toi, ils ne sont même pas enquêtés par la justice. Mais dès qu'on devient opposant, on arrête. À 6h du matin, on arrête. Il y a beaucoup de gens qu'on a arrêté. Les étudiants, les professionnels, les députés de Ousmane Sonko, il y a beaucoup d'arrestations en ce moment au Sénégal. Actuellement, à Dakar, il y a des manifestations à Dakar, les gens, comme moi, je ne suis pas là-bas. Si j'étais à Dakar, j'allais manifester. Mais, Stéphanie, on a peur. J'ai trop peur pour mon Sénégal. La démocratie sénégalaise est en train de disparaître. Il n'y a plus de démocratie au Sénégal.
Plus de démocratie au Sénégal. Merci, Sibi. Alors, je le disais hein, depuis ce matin, hein, l'Assemblée nationale hein, sénégalaise se penche hein, sur... la levée de l'immunité d'Ousmane Sonko. Ce dernier a dit hier hein, que même si son immunité était levée, il ne se rendrait pas à une convocation judiciaire. Hein, selon lui, hein, la levée de son immunité n'a pas suivi les règles de la loi. Monsieur Lai, bonjour.
Oui, bonjour Stéphanie. Merci de me donner la parole.
Bonjour Lai. J'ai bien vu que vous partagez les inquiétudes de l'auditeur précédent.
Oui, tout à fait, tout à fait. Franchement, j'ai très peur pour mon pays. J'ai très peur parce que à l'allure où vont les choses, c'est sûr qu'on va droit au mur. Et là, Yanamar, le mouvement Yanamar, qui a appelé carrément aux Sénégalais à la résistance. Ousmane Sonko, son parti, pareil. Le mouvement de Guy Marie Sagnan en France, Frappe France Dégage aussi a appelé à la résistance. Donc c'est pour vous dire que du côté du pouvoir, il ne recule pas. Donc ça veut dire que forcément il y aura des affrontements. Et la procédure qu'ils ont engagée au niveau de l'Assemblée est illégale parce que tout simplement le comité ad hoc qu'ils ont mis en place n'a pas respecté le règlement intérieur de l'Assemblée. Les députés de l'opposition qui devaient représenter Ousmane Sonko n'ont pas eu accès au dossier. Donc, ils ont préféré démissionner parce que pour eux, c'est une mascarade. Et là, franchement, si Macky Sall ne recule pas, il va mettre le pays à feu et à sang. Et franchement, il ne doit pas mettre ce pays dans une situation pareille. Parce que malgré les quelques soucis qu'on a eu avec Ablaouad, mais il est resté un démocrate. Et il y a des lignes rouges qu'il n'a pas voulu franchir. Mais Macky Sall, pour lui, à ce moment, il voit qu'une chose, c'est comment mettre hors état de nuire, je dirais même pas hors état de nuire, mais comment carrément éliminer Ousmane Sonko de l'opposition sénégalaise. Puisqu'il a déclaré qu'il a 85% du suffrage au niveau de son pouvoir, ben pourquoi il touche à Ousmane Sonko? Il faut qu'au moins qu'il laisse les Sénégalais pour avoir un autre choix. Mais là, qui continue, c'est... Moi, j'ai très peur. J'ai très peur, pour vous dire vrai. Hier nuit, j'ai pratiquement pas dormi parce que cette situation me perturbe au plus haut niveau. Je sais pas, l'Union africaine, on les entend pas. La CEDEAO, on l'entend pas non plus. Et comme à l'accoutumée, ils attendent que des vies humaines soient perdues pour qu'ils sortent un communiqué pour essayer de calmer tout le monde. C'est maintenant qu'il faut réagir. Parce que sinon, on va droit au mur.
Merci, Laïa.
C'est ma contribution et j'espère vraiment que Macky Sall va revenir à la raison.
Merci beaucoup, Laïa. Macky Sall s'est défendu de dire un complot. Il a déclaré qu'il n'avait pas le temps pour cela. Je disais quelques bêtises. L'Assemblée nationale a commencé à se réunir il y a seulement une petite heure. Et la presse sénégalaise n'a pas été conviée et restée en dehors de l'Assemblée. Des forces de l'ordre sont plutôt déployées autour de l'Assemblée. Merci, Laï. 33 1 55 07 58 00. C'est la libre antenne du JDA. Venez commenter l'actualité de votre choix, nous parler du sujet de votre choix. On continue encore de parler de l'affaire Sonko avec Diaby. Diaby, bonjour.
Bonjour Stéphanie.
Bonjour Diaby, bienvenue.
Vous allez bien?
Ça va.
Ça va. Très bien. Bon, je vais parler vraiment de l'affaire de Sonko. Vraiment, c'est inquiétant pour l'Afrique de l'Ouest actuellement. Mmh. On a vu la Côte d'Ivoire, on a vu le Guinée, on a vu vraiment aujourd'hui le Niger, on a vu le Sénégal. Vraiment, Mali, on a vu que CEDEAO ne bouge pas. Parce qu'on a vu au Mali plusieurs arrestations, mais aucune personne, CEDEAO, ne les entend pas du tout. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Ils sont en train de bafouer les démocraties en Afrique de l'Ouest. Et coûte que coûte, le président, il veut rester au pouvoir. La Côte d'Ivoire, il reste au pouvoir. La Guinée, il reste au pouvoir. Et Niger, c'est pareil. C'est la même chose. C'est Biépol, Jacques, c'est ça. Mais donc, au Sénégal, Macky Sall est en train de faire la même chose. C'est le seul, c'est le dernier. Je demande aux Sénégalais, il n'y a pas que Sénégalais, je demande toute l'Afrique, je demande toutes les jeunesses africaines de se lever comme un seul homme, de ne pas laisser Sonko condamner. Si Sonko sera condamné, la démocratie en Afrique, ça sera bafouillé. Merci Stéphanie.
Merci à vous Diaby qui s'inquiétait sur la démocratie en Afrique de l'Ouest. 33 1 55 07 58 00, c'est la libre antenne. Il nous reste encore un peu de temps. Venez nous parler du sujet de votre choix. Venez nous dire quelle actualité fait la une dans votre pays, par exemple. On va parler dans un instant de la Côte d'Ivoire avec Camara, où aujourd'hui, c'est l'ouverture des élections législatives. Et puis cette semaine, Assouadou avait annoncé le retour de Laurent Gbagbo mi-mars. On finit l'affaire Sonko avec Amadou. Amadou, bonjour.
Bonjour Stéphanie, bonjour Radio Africa, merci les auditeurs de Radio Africa, merci à vous aussi pour votre générosité. Moi je me reviens en tant que Sénégalais, effectivement Macky Sall avec Ablaye Wade, c'est le même parti démocratique de la politique sénégalaise. Mais le problème il est que c'est malhonnête ça, parce qu'on n'utilise pas les gens, comment dire, pour rester au pouvoir. J'appelle ça la dépendance affective, quoi. Dépendance affective, comment dire ça, c'est personnel, qu'on esclave. Voilà. Donc, sur ce côté-là, il faut intervenir. Il ne faut pas que le peuple sénégalais se comprenne. Le Sénégal ne peut pas devenir comme le Maroc, le Royaume. Non, non, non. Le pouvoir ne leur appartient pas. Il faut qu'ils cèdent la place aux jeunes Sénégalais.
Bon. Merci, Amadou, de nous avoir appelés. On ferme ce sujet, Sonko. On aura l'occasion sûrement d'y revenir la semaine prochaine. Camara, bonjour. Camara, on ne vous entend pas.
Oui, allô?
Oui, bonjour Camara. Pouvez-vous enlever votre kit main libre, s'il vous plaît?
Oui, attendez deux secondes. Je l'enlève rapidement. Attendez. Allô?
Oui.
Vous m'entendez?
On vous entend. Allez-y, Camara. Vous voulez parler de la Côte d'Ivoire et du retour de Laurent Gbagbo? Selon Assouadou, Laurent Gbagbo rentrera mi-mars. Il se défend de faire pression sur le pouvoir.
Allô?
Oui, on vous écoute, Camara.
Voilà, je
ne vais pas enlever votre main libre, mais je pense que votre radio est allumée.
Attendez, je vais l'éteindre.
Bon, Camara, enlevez-moi le kit main libre et éteignez-moi la radio, et je reviens vers vous dans 3 minutes après avoir écouté Alban. Alban, bonjour.
Oui, bonjour à tous.
Bonjour Alban, bienvenue. Vous voulez revenir sur le vaccin chinois Sinopharm? Vous dites qu'il y a de quoi se méfier. C'est le vaccin d'ailleurs qui est utilisé actuellement au Sénégal. Je crois que la Chine a fait des dons ici et là, notamment à l'Algérie aussi.
Oui.
Bon, moi, je dis il faut se méfier des vaccins chinois parce que ce sont les seuls vaccins qui n'ont pas été, c'est-à-dire pour la mise sur le marché. Donc, ils n'ont pas respecté le...
Il n'y a pas d'étude, vous dites, qui a été publiée, c'est
oui,
ça?
Oui, il n'y a pas d'étude publiée, surtout. En principe, il faut donner... Il y a l'OMS qui doit valider, donc après des tests, il y a la communauté scientifique où ils doivent publier dans des... comment on appelle?
Des revues?
Dans des revues, ce qui n'a pas été fait. Donc, il y a un doute sur les vaccins chinois. L'élaboration a été faite de manière un peu cachotière. Et on sait que la Chine et la Russie ont été les premiers à avoir mis sur le marché des vaccins contre le Covid-19. Et la Chine donne ou vend ces vaccins. Mais ce que je trouve bizarre, avec tous les moyens colossaux qu'a la Chine, ils ont une population d'environ 1,5 milliard et il n'y a que moins de 50 millions qui ont été vaccinés. Donc moi, ça me pose
quand même de
petites questions, oui. Et quand on sait aussi que le vaccin chinois est l'un des plus chers sur le marché, autour de, je crois, 20-25 €, suivi par Pfizer, et le moins cher, c'est le... AstraZeneca. Le vaccin russe était autour de 20 €, mais ils ont divisé le prix par deux actuellement. Donc le vaccin chinois, je pense...
Alors, j'ai aucune information sur le prix des vaccins, je regardais en même temps, mais je vous fais une totale confiance, vous avez l'air d'avoir étudié le sujet, mon cher.
Oui, les Russes avaient le Sputnik 5 qui valait, je crois, 9 €, maintenant ça fait 9,50 €, ils ont cassé. Donc, divisé par deux. Et le vaccin chinois, c'est plus de 20 €.
On va rester sur ces considérations, mon cher Alban. On arrive à la fin de cette émission. Merci beaucoup de votre participation, Alban, qui exprimait ses inquiétudes sur le vaccin chinois. D'ailleurs, la Chine a produit également d'autres vaccins. Trois autres vaccins sont actuellement en essai clinique. J'invite Charlie, Aiko et Richard à laisser leur message sur le répondeur d'Africa Radio 01 55 07 58 05. C'est la fin de l'émission, hein, vous l'entendez. On se donne rendez-vous lundi pour une nouvelle édition du Journal des Auditeurs. Lundi, nous parlerons des élections législatives en Côte d'Ivoire. Hein, qu'attendez-vous de ce scrutin? Vous pouvez, je vous rappelle, vous inscrire. Alors, si le problème technique n'est pas résolu, privilégiez le mail pour vous inscrire, jda@africaradio.com. Voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end à l'écoute d'Africa Radio. Et puis surtout, prenez soin de vous.